comprendre le cerveau de nos enfants pour mieux nous comporter avec eux et mieux les éduquer. On appelle cela les neurosciences affectives et sociales. Cette discipline en plein essor et de plus en plus de spécialistes du monde de l'enfant s'y intéressent. Au développement donc du cerveau pour comprendre comment les enfants interagissent avec leur environnement et comment ils vivent leurs émotions. Avec mes invités, nous allons donc explorer ce lien entre cerveau et éducation et nous attendons dès maintenant toutes vos questions et vos messages sur le site de la Tête au Carré et sur le mot-clé la TAC. Des vaisseaux sanguins de dinosaures qui ont subsisté après 80 millions d'années, c'est aujourd'hui à la une de la science, Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu, c'est une prouesse technique de les avoir trouvés, mais que peuvent-ils nous apprendre? C'est une autre question, on en parle dans un instant avec vos questions sur Twitter.
Stéphanie Texier réalise cette nouvelle Tête au Carré qui a été préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati avec Carole Sauvage.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Le cerveau des enfants, dossier donc de l'émission dans un instant. Catherine Guéguen et Isabelle Filioza, bonjour à toutes les
bonjour.
Deux.
Bonjour.
Bienvenue Catherine Guéguen. Pourquoi est-ce que c'est si important de comprendre le fonctionnement du cerveau de nos enfants?
Bien parce que les chercheurs nous disent actuellement que tout ce que va vivre l'enfant, toutes ses expériences vont modeler totalement en profondeur le cerveau. Et donc, il va y avoir des différences. Si la relation est empathique, bienveillante, soutenante, le cerveau va se développer de façon maximale, aussi bien au niveau intellectuel qu'affectif, et l'inverse est vrai.
Isabelle Filioza, est-ce qu'un cerveau d'enfant, justement, c'est un cerveau qui est particulièrement sensible à tout ce qui se passe autour de lui? C'est un cerveau un peu éponge, on pourrait dire, presque?
Tout à fait, parce que mesurant que c'est un cerveau en construction, et donc il utilise les matériaux de construction pour s'élaborer à l'intérieur, il reçoit toutes ses afférences sensorielles, et le problème, c'est que, comme il est encore en construction, il ne sait pas toujours bien trier les différentes afférences.
Mais importance donc de le comprendre pour mieux éduquer aussi son enfant, ce sera l'objet de notre discussion avec
et
vous.
Et savoir alimenter avec la bonne alimentation, pas trop de stimuli et suffisamment de stimuli.
Allez, les messages des auditeurs franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. L'étude des dinosaures à la une de la science aujourd'hui. Voilà, c'est un vieil enregistrement de cris de dinosaures, presque aussi vieux que ces vaisseaux sanguins dont on va parler aujourd'hui, grâce à cette équipe de chercheurs de Caroline du Nord qui pense avoir déniché donc les restes de vaisseaux de sanguins, de dinosaures, vieux de 80 millions d'années. Ils apportent la preuve que des tissus mous et certaines protéines de dinosaures peuvent donc traverser le temps sous certaines conditions dans les eaux fossilisées. Deux paléontologues avec nous en ligne pour en parler, Ronan Alain, bonjour. Ronan Alain, est-ce que vous êtes là avec nous en ligne? Eh bien non, apparemment. On va essayer de le retrouver dans un instant. Cohen Stein, est-ce que vous, par contre, vous êtes avec nous?
Oui, je suis chez vous.
Voilà, un invité sur deux, c'est déjà pas si mal. Vous êtes chercheur à l'Université libre flamande de Bruxelles. On va essayer de retrouver Ronan Alain dans un instant. Et je vais vous poser ma première question, Cohen Stein, justement. Qu'est-ce qui reste de ces vaisseaux sanguins d'un os de dinosaure après 80 millions d'années passées sous terre?
Il en reste la structure du vaisseau.
Oui, oui, je suis là.
Ah, je pense que Ronan Alain...
Oui, apparemment, il est arrivé. Voilà. Bonjour, Ronan Alain.
Bonjour.
Voilà, je vous le confirme, vous êtes en direct et en ligne.
D'accord.
Cohenstein, on vous écoute.
Oui, donc ils ont montré que les structures, quand on résout, quand on a dissous l'os, il y a des vaisseaux sanguins qui restent. Et on pensait pendant longtemps que c'était seulement des restes des bactéries ou peut-être des fungi. Mais maintenant, ils ont montré que c'est en effet, ce sont des vaisseaux sanguins montrant des protéines et avec des méthodes indépendantes que ce sont vraiment des vaisseaux sanguins.
Oui, on pensait que c'était des bactéries ou des champignons en fait au départ.
Ouais.
Comment est-ce qu'on fait pour avoir cette information? On est obligé de broyer l'os, c'est ça que vous avez dit?
Oui, on doit en fait dissoudre avec de l'acide faible des petits échantillons de l'os. Et après, ce qui reste, ce sont des restes organiques. Ils avaient déjà montré qu'il y a des cellules osseuses qui sont préservées dans cet os fossilisé. Et maintenant, ils ont en plus montré qu'il y a des vaisseaux sanguins qui sont aussi préservés.
Ronan Alain, est-ce que pour vous c'est une découverte importante ?
En fait, c'est étudié depuis, on va dire, les années 60, hein, puisqu'on fait déjà des coupes histologiques dans les os, qu'on va regarder après au microscope, et on retrouve ces canaux vasculaires. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a dans les canaux. Ça, on ne l'avait pas avant, et donc là, ce qu'ils ont retrouvé, ce sont des peptides et des protéines qui seraient des peptides et protéines de dinosaures.
Et Cohen-Stein, est-ce que avoir accès à ces molécules va pouvoir nous faire avancer si on généralise la technique, par exemple ?
Oui, si la technique devient de plus en plus utilisée par des autres laboratoires, et je peux voir des collaborations dans le futur pour établir une base avec des informations sur des autres espèces, peut-être utilisant les structures des protéines et des peptides pour résoudre la phylogénie, l'arbre des dinosaures, ou peut-être même des autres organismes qui sont pas dinosaures, mais en effet éteints.
Renaud Alain, est-ce que ça veut dire que ce serait une nouvelle façon de faire de la paléontologie aujourd'hui ou pas ?
Alors, on en revient toujours au fameux ADN fossile, aux fameuses protéines fossiles des dinosaures. Et donc là, effectivement, l'intérêt, ça serait d'avoir cet ADN pour les reconstructions phylogénétiques. Il va quand même falloir broyer beaucoup d'os de dinosaures. Il va falloir vérifier que tous les gisements vont livrer ce type de structure. Donc, ça va demander beaucoup de travail avant d'établir une liste de protéines chez beaucoup de dinosaures.
Le broyage des os, ça vous gêne un petit peu ou pas ?
Ah bah moi ça me gêne beaucoup parce que j'ai une casquette de conservateur, donc je sais très bien après que les collègues qui font de la géochimie n'ont pas besoin de grosses quantités d'os pour réaliser ce type d'études. Mais c'est vrai qu'on peut pas tout broyer non plus, à un moment il faut s'arrêter.
Oh mais vu la taille d'un os de dinosaure quand même, on peut bien en prendre un et puis l'utiliser pour la science, non ?
On peut l'utiliser pour la science, mais s'il est dans un musée, les gens vont vous regarder un petit peu bizarrement.
Oui, c'est vrai.
Cohen-Stein, c'est vraiment le tout début de quelque chose de très nouveau en paléontologie ?
Je pense que oui, c'est une phase émergente de la paléontologie moléculaire, je pense. Comme Ronan Alain a dit, dans les années 60, ils ont commencé avec des recherches sur la structure de l'os et les premières investigations des trucs les plus petits préservés dans l'os. Et maintenant, on a la technologie pour en fait étudier ces molécules. C'est encore un peu cher pour des laboratoires partout d'avoir cette technique, mais je pense que dans le futur, ça deviendra moins cher et plus faisable.
Vous pensez qu'on ira un jour jusqu'à de l'ADN exploitable ?
L'ADN exploitable, ce sera difficile pour exploiter l'ADN parce que le temps est si long et la molécule ADN est très très instable. Donc, pendant les millions d'années, ça va être coupé dans des petits bouts. Je parle toujours pour dire avec une métaphore, c'est d'essayer de reconstruire un roman avec seulement quelques mots. Donc, ça sera très difficile pour mettre ça, toutes les pièces d'ADN, dans un contexte de l'animal.
Mmh. Ronan Alain, ça reste toujours un fantasme dans votre domaine, la quête de l'ADN de dinosaures ou pas ?
Alors on en parle toujours autant, après oui. On sait qu'on a toujours des soucis, hein. Les plus vieux ADN fossiles ont une dizaine de milliers d'années, donc de là à remonter à 65 millions d'années, on sait qu'il faudra vraiment des gisements à conservation exceptionnels, enfin il faudra trouver des fossiles exceptionnels pour pouvoir avoir accès à des ADN. Maintenant, vous savez qu'on a séquencé complètement l'ADN des crocodiles et de 42 espèces d'oiseaux. Et on sait que, avec ces ADN, on peut reconstituer l'ADN des dinosaures à près de 99,5%. Donc l'ADN des dinosaures n'est pas si inconnu que ça.
Pour revenir sur ces vaisseaux sanguins découverts, quelle différence avec les vaisseaux sanguins peut-être du groupe des oiseaux aujourd'hui, Cohen-Stein ?
Je pense pas qu'il y a des grosses différences. C'est-à-dire les protéines qu'ils ont montrées, je pense qu'elles étaient pareilles en fait. C'est pour ça qu'ils pouvaient montrer qu'il y a en effet ces protéines dans ces vaisseaux, utilisant des anticorps pour colorer ces protéines. Donc c'était une des techniques indépendantes qu'ils ont utilisé dans cette étude.
Renaud Alain, pour terminer, dites-nous quand même le fond de votre pensée sur cette découverte de vaisseaux sanguins. Là, pour nous, ça nous paraît quand même incroyable de voir que ça a pu comme ça passer les millions d'années. C'est intéressant pour vous, du point de vue purement scientifique ou pas?
La technique.
Je vous sens réservé pour tout vous dire.
La technique et la méthode sont assez extraordinaires, effectivement. La spectrométrie de masse est en train de se développer, surtout à ce niveau de résolution. Mm-hmm. Donc, je pense effectivement que dans un futur proche, ça sera exploitable, mais aujourd'hui, c'est difficile de l'exploiter tout de suite. Il faudra attendre qu'il y ait énormément de découvertes chez d'autres animaux, sur d'autres fossiles. Et quand on aura acquis un certain nombre de données, là, on verra vraiment s'il y a une utilité ou pas.
Merci en tout cas à tous les deux pour vos explications, Renan Alain et Cohenstein.
De rien.
Dans les coulisses de la COP21, avec reporter.net.
Allez, encore quelques jours de conférences et comme tous les jours, nous retrouvons Hervé Kempf au téléphone. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Alors, on se rapproche du sprint final pour un accord de Paris, après l'accord de Kyoto?
Oui, tout à fait. Alors, j'aurais voulu vous donner les grandes lignes du texte présenté aujourd'hui, qui sera le brouillon de l'accord de Paris, mais il a été repoussé, il ne sera rendu qu'à 15h. Est-ce que vous m'entendez bien?
Oui, très bien, parfaitement.
D'accord, très bien. Moi, je vous entends plus, c'est pas grave. Donc, on attend ce texte à 15h. Globalement, la méthode semble marcher. Les délégués sont contents. Ils ont même applaudi hier Laurent Fabius. Le champ de la discussion va se resserrer sur les principaux points. Finances, révision des engagements réguliers, différenciation entre pays riches et pays pauvres. Mais les ONG commencent à manifester leur mécontentement. Elles ont l'impression que cela va être un accord, mais un accord très mou.
C'est votre sentiment également, Hervé?
Moi, je n'analyse pas tant que je n'ai pas vu les textes et interrogé les différents points de vue. Je réserve mon avis.
Vous êtes notre grand sage, en tout cas, de la COP21. Un mot, Hervé, sur l'organisation de cette journée de samedi qui se précise petit à petit du côté de la société civile.
Voilà, parce qu'il y a toujours des citoyens, des activistes, des militants qui veulent se faire entendre. Et donc, samedi, on aura vers midi une action très originale, mais j'aurais du mal à vous l'expliquer en peu de temps, mais où il y aura des millions de personnes qui, grâce à leur téléphone portable, vont dessiner en quelque sorte un mot qu'on repérera par géolocalisation et que l'on pourra voir dessiner une phrase Justice Climate for Peace sur les écrans. Je pense que ça pourrait faire un sujet intéressant pour la tête au carré. Et puis, il y aura dans l'après-midi, vers 14h, un rassemblement et une chaîne humaine au Champ de Mars.
Merci beaucoup Hervé, voilà pour les principales informations donc à retenir et puis donc des informations plus précises à 15h cet après-midi. Merci beaucoup et on se retrouve demain bien sûr avec toute l'équipe de reporter.net. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, faut-il dire adieu à Philae, posé sur la comète Chury? Le robot de l'ESA reste désespérément muet depuis 5 mois, malgré les multiples tentatives de contact des techniciens du CNES à Toulouse. Les ingénieurs avaient pourtant bon espoir lorsqu'en novembre, la sonde Rosetta se trouvait à une petite centaine de kilomètres de la comète Chury. Mais tout n'est cependant pas définitivement perdu avec d'autres tentatives de contact qui vont être entreprises d'ici Noël. Et puis enfin, l'INSERM recrute 300 volontaires à Paris en province, prêts à tester 2 vaccins contre le virus Ebola à quelques semaines d'intervalle. Rassurez-vous, les potentiels intéressés, eh bien, il n'y a aucun risque que vous soyez infecté par Ebola. Cet essai vaccinal est également rémunéré. Et pour plus de renseignements, l'INSERM a mis en place un numéro vert, le 0800 156 156. Notez que hier soir au Collège de France, le chercheur belge Peter Piot, qui est co-découvreur du virus Ebola en 76, a reçu le prix international de l'INSERM. Allez, l'éducation à la lumière des neurosciences, le dossier dans un instant. Ah ben on commence avec la pêche, cette tête au carré Falls avec Mountains at My Gates.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
L'éducation des enfants à la lumière des neurosciences est donc le dossier cet après-midi pour comprendre ce que le développement du cerveau affectif de l'enfant peut nous apprendre d'essentiel sur sa construction, sur ses émotions. Mes invités donc pour répondre à mes questions et à vos messages, Catherine Guéguen et Isabelle Filioza. Catherine Guéguen, vous êtes pédiatre et vous publiez Pour une enfance heureuse, penser l'éducation à la lumière des dernières découvertes sur le cerveau. C'est un livre qui paraît chez Robert Laffont. Et puis Isabelle Filioza, vous êtes psychothérapeute, auteur de nombreux livres, dont par exemple J'ai tout essayer ou Il me cherche aux éditions Jean-Claude Lattès. Et les messages arrivent sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Alors, il faut préciser, on l'a compris d'ailleurs dans cette présentation, que vous n'êtes neuroscientifique ni l'une ni l'autre. Et pourtant, hein, vous suivez de près toutes les découvertes basées sur le développement du cerveau de l'enfant, au point même d'ailleurs de baser votre conception de l'éducation aujourd'hui sur ce que la science du cerveau nous révèle. C'est quelque chose qui a complètement bouleversé votre conception du monde de l'enfance, Isabelle Filioza ?
Je ne peux pas dire ça parce qu'en fait, moi, je suis une passionnée de cerveau et de science depuis que je suis adolescente.
Ouais.
Donc, ça a toujours été mon principal intérêt, comprendre la vie, comprendre comment c'était possible qu'on arrive à penser tout ça. Donc, le cerveau, oui, je pense que j'aurais pu faire des neurosciences.
Mais oui, c'est ça. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allée sur cette voie-là alors ?
Eh bien, parce que le professeur de biologie, quand j'étais inscrite en médecine, a dit qu'il était chercheur en biologie, mais ça faisait 10 ans qu'il travaillait sur une crête de mitochondries. Et moi, je me suis dit, je ne pourrais jamais passer 10 ans sur une crête de mitochondries.
Oui, l'influence.
Un poumon de cellules.
L'influence aussi sur votre propre cerveau, hein, de ce professeur.
Mais,
il a agi fondamentalement sur votre parcours, quand même, c'est pareil. Hein. Catherine Guéguen, de votre côté ?
Alors, de mon côté, je me suis toujours intéressée aussi au cerveau et à la science, mais j'adore le contact. Et je suis une clinicienne et j'ai adoré m'occuper de milliers de parents et de milliers d'enfants. Donc j'ai besoin de ce contact avec les parents et les enfants.
Mais le cerveau, alors cet intérêt pour le cerveau, vous avez fait de l'autonomie aussi.
Oui,
hein,
j'ai fait de l'autonomie et je suis formée en communication non violente. J'aime pas ce terme, je préfère communication empathique ou bienveillante. Et on a beaucoup de chance en 2015 de vivre cette période-là parce que les chercheurs à l'heure actuelle dans le monde entier nous disent des choses extraordinaires sur le cerveau. En fait, pourquoi c'est extraordinaire ? Parce qu'ils confirment toutes les intuitions qu'avaient les grands pédagogues. C'est-à-dire que tout ce qu'on pouvait penser qu'une relation bienveillante, empathique, soutenante avec l'enfant allait favoriser son développement, et bien maintenant, les scientifiques nous le confirment.
Ça fait, on est passé de la théorie vraiment à l'expérimentation, hein, et on a du dur, là, du solide.
Absolument, et c'est pour ça que je trouve qu'on vit un moment extraordinaire. Donc ces connaissances nous font progresser dans notre façon d'être, en fait.
Ouais, au point de modifier aussi toute la conception de l'éducation de nos enfants, Isabelle Filioza, est-ce que ça commence déjà à passer, en tout cas ?
Oui, tout à fait, parce que ça étaye ce dont on se doutait. On avait des intuitions, on se disait, mais si un enfant de 2 ans systématiquement fait tout le temps la même chose, si on dit que dès qu'on met des limites à un enfant, il va vous tester, etc. Si on dit que, eh bien, tous les enfants font ça, peut-être que c'est finalement dans leur cerveau. Et donc, du coup, on peut chercher dans leur cerveau, mais qu'est-ce qui explique leur comportement ? Souvent, je prends l'image du lait qui boue. L'éducation traditionnelle, c'était, il y a du lait qui boue, donc l'enfant déborde, je vais mettre un couvercle sur le lait, je vais chercher à dire stop au débordement, je vais punir l'enfant, je vais freiner, je vais dire à l'enfant, arrête de déborder. La parentalité positive, la parentalité qui s'appuie sur les neurosciences, elle se dit, bon, si ça déborde, c'est que probablement il y a un peu trop de gaz. Comment je peux faire pour diminuer le gaz ? Et le fait de comprendre ce qui se passe dans le cerveau change le regard. Bien sûr qu'on ne va pas trifouiller les neurones de l'enfant, on ne va pas se dire « Oh là là, qu'est-ce que je peux faire ? Il faut que je lui mette des électrodes ou je ne sais pas quoi. » Non, mais ça nous donne un regard sur l'enfant. On se dit « Ah ben, c'est pour de vrai. » L'IRM fonctionnel dit que l'enfant de 2 ans n'a pas sous son contrôle l'espace qui permet de réguler les impulsions. Ouais. Donc, il a des impulsions, il n'arrive pas encore à les réguler, c'est naturel. Donc du coup, mon rôle de parent devient différent.
Ouais. Mais vous dites, on ne va pas trifouiller les neurones, sauf qu'on s'aperçoit justement en étudiant le cerveau que nos comportements d'adultes ou de parents et les paroles que nous prononçons envers nos enfants, justement, agissent directement sur les neurones aussi du cerveau en pleine construction.
Alors, ce qu'on sait, c'est que le cerveau est beaucoup, beaucoup plus immature qu'on ne pensait pendant les premières années de vie, qu'il est beaucoup plus fragile et beaucoup plus malléable. Et en fait, tout ce que va vivre l'enfant va modeler et va modifier ses neurones, ses sécrétions de molécules cérébrales, les circuits cérébraux, les structures cérébrales, même l'expression de certains gènes, et toute une structure qui nous permet l'axe qu'on appelle neuro-endocrinien, qui nous permet de faire face au stress. Et aussi beaucoup de structures cérébrales qui nous permettent de mémoriser et d'apprendre. Donc vous imaginez comme quoi ça va sculpter et modifier totalement le cerveau.
Il y a une question de Patrice qui nous dit ceci dans l'éternel débat acquis inné. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de récupération des neurosciences par les inconditionnels justement de l'inné, niant le fait que la plasticité du cerveau dépend des stimuli familiaux et sociaux?
Alors, à l'heure actuelle, on sait que ce sont les expériences qui vont absolument façonner d'abord l'être humain. Bien entendu qu'il y a les gènes et le tempérament de l'enfant, mais les expériences modèlent en permanence ce qu'on est et agissent sur les gènes. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Et Michael Minet, qui est chercheur à Montréal, a montré que le stress et que le maternage va modifier totalement certains gènes qui nous permettent de faire face au stress ou qui permettent de modifier l'hippocampe, qui est la structure cérébrale qui nous permet de mémoriser et d'apprendre.
Donc on est dans l'acquisition, là, pour le coup. Hein. Tout ce qui est environnemental, social, éducationnel.
Ce qui est environnemental prime sur nos gènes. Ça, c'est extrêmement important à savoir.
Isabelle Filosa, même si on ne peut pas faire la part exacte entre l'inné et l'acquis, en tout cas, on voit vraiment que notre construction elle est largement tributaire de tout ce qu'on reçoit au cours de la vie et évidemment dans la petite enfance. Hein.
Tout à fait. Mais ce qui est clair aujourd'hui, c'est on a un peu dépassé ce débat inné acquis et ce qui est tout est épigénétique et donc il y a l'expression des gènes. Et ce qui est génétique, c'est pas forcément ce qui apparaît. Donc oui, nous avons un grand impact sur ce que vont devenir nos enfants.
On va aller dans un collège où les élèves de 6e reçoivent un cours de neurosciences toutes les semaines.
Wow.
Mais ils ont beaucoup de chance.
Oui.
Et on écoute ce reportage qui date de 2013.
On ouvre son fichier à la page du dossier qu'on a commencé sur le stress. Est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau quand vous stressez?
Il y a les glandes surrénales qui libèrent les deux hormones du stress.
Les glandes surrénales, Adrien.
C'est des hormones.
Des hormones.
Il y a l'hormone de... qui s'appelle l'adrénaline.
Est-ce que tu sais ce qu'elle fait?
Le cœur, il bat plus vite.
Hakim.
Ça empêche d'apprendre quand on en a trop.
Quand ça monte,
mal géré.
T'as compris le principe.
Voilà, intéressant, non, hein, cette expérience, Isabelle Filosa.
Oui, surtout qu'elle fait dans le réel, dans le processus de son cours, elle utilise déjà ce qu'on apprend dans les neurosciences. Notamment, elle dit « on ouvre son dossier au lieu de « ouvrez vos cahiers », parce que quand on donne un ordre, on empêche l'enfant de mobiliser son cerveau préfrontal, celui qui va lui permettre d'anticiper, de se sentir responsable de son acquisition, etc., d'être au contrôle, d'être sujet de son acquisition. Tandis que quand elle dit « on ouvre », finalement, ça permet, l'enfant entend par la zone verbale, mais il n'a pas à obéir. Donc,
est-ce que ça ne dépend pas de la façon dont on exprime aussi la chose? On pourrait dire
«
vous ouvrez votre dossier, s'il vous plaît », d'une façon...
Mais s'il vous plaît, c'est quand même, c'est quand même une demande. Et c'est différent. Elle pose des questions aussi, donc elle permet à l'enfant de mobiliser son cerveau frontal, ce qui va nous permettre d'acquérir davantage d'informations, ce qui va nous permettre de grandir dans nos acquisitions, dans l'apprentissage, c'est d'être sujet et de mobiliser ce cerveau préfrontal que nous avons, qui est typique de l'humain.
Oui.
L'humain a ce cerveau préfrontal et c'est aussi le siège du libre-arbitre.
Catherine Guéguen.
Alors, elle parle du stress et
stress alors ça, c'est intéressant
est extrêmement
aussi.
Important. Ouais. Il y a énormément de recherches là-dessus. Mm-hmm. Vous avez Bruce McEwen qui travaille à New York sur ce sujet-là. Martin Teicher qui travaille aussi aux États-Unis. Et ils ont, dans des études extrêmement récentes, montré qu'à chaque fois que le stress est répété, quotidien chez l'enfant, ça va empêcher la maturation du cerveau, la maturation du cortex préfrontal, dont Isabelle nous dit qu'il est si important, les circuits cérébraux qui vont du cortex préfrontal au cerveau émotionnel, et que Bruce McEwen dit même que quand le cortisol est à un taux trop élevé, il va abîmer les neurones, il va même les détruire dans des structures cérébrales extrêmement importantes, le cortex préfrontal, l'hippocampe, le corps calleux, le cervelet.
Donc on voit les effets délétères et évidemment les conséquences catastrophiques pour un enfant qui se construit.
Absolument.
Là encore.
Alors les conséquences, c'est des troubles du comportement, mais qui peuvent être extrêmement importants, c'est-à-dire de l'anxiété pathologique, de la dépression, de la violence, de l'agressivité, des troubles de la personnalité, des addictions aux drogues et à l'alcool. Donc c'est extrêmement pour notre société tout entière de ne pas stresser les petits. Ça ne veut pas dire qu'on va céder.
Alors,
pas du tout.
On y reviendra avec vous, parce qu'il y a plein de questions qui se posent, là
oui,
aussi,
absolument.
Des questions d'éducation pure, sur la façon quand même dont on doit réagir face à certains comportements des enfants.
Et oui, je voulais dire que pour faire baisser ce taux de cortisol, il suffit, des recherches l'ont montré, de jouer 30 minutes par jour avec son enfant. Quand on joue 30 minutes par jour avec un adolescent, les taux de cortisol dans son urine diminuent drastiquement. Nous avons réellement un pouvoir pour permettre à nos enfants de mieux gérer le stress.
Allez voir là-bas si j'y suis, dans les rues de Chelsea. Fuir les fantômes, l'insomnie qui sévissent à Paris. Dans un hôtel de Nolita, j'ai posé mes valises. Je ris, je chante, je danse, je bois et je dédramatise. Les joues pétillent comme du soda, l'inconnu m'électrise. Seul dans cette ville à la polka, diurne je cicatrise.
J'ai du mal à pas réagir par rapport à leurs émotions débordantes, on va dire. Donc, que ce soit dans l'énervement, dans la bouderie, dans la colère.
Vous jouez à quoi? Pas à vous battre, c'est pas un jeu de vous battre.
Ce qui me gêne, c'est d'avoir un sentiment d'impuissance quelque part. J'ai l'impression que je passe ma journée à crier, quoi.
Voilà, on ne sait plus si c'est la maman ou si c'est l'enfant qui crie d'ailleurs dans cet extrait. Catherine Guéguin et Isabelle Filioza pour parler donc de l'éducation à la lumière donc des neurosciences. On entendait les émotions débordantes, hein, Catherine Guéguin, dans ce témoignage de cette mère.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau émotionnel chez le tout petit est dominant. Et il est dominant jusqu'à à peu près 5-6 ans. Et en fait, ce que les chercheurs nous disent, et qui est extraordinaire, c'est que si l'adulte comprend les émotions de l'enfant, met des mots dessus, l'apaise, ce qui ne veut pas dire, du tout dire céder, eh bien, cela va faire maturer le cortex préfrontal qui nous permet de réguler nos émotions, et ça va faire maturer les circuits qui vont du cortex préfrontal au cerveau émotionnel. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Que le tout petit a des émotions, mais absolument gigantesque, c'est-à-dire c'est des vraies tempêtes émotionnelles.
Qu'est-ce qu'on a mal compris alors des émotions de l'enfant?
Quand nous sommes en colère, tristes, anxieux, eh bien nous avons notre cortex préfrontal qui nous permet de nous dire bah, « c'est pas si grave que ça ce que je vis, j'y trouve une solution ». On prend du recul. L'enfant, lui, il vit ses émotions de plein fouet, il ne peut pas les réguler. Donc lui, quand il est en colère, c'est des immenses colères. Quand il a peur, c'est des immenses paniques. Et quand il est triste, c'est des immenses chagrins. Donc, l'adulte ne sait pas ça, donc il va lui dire « mais arrête tes comédies, arrête tes caprices, va dans ta chambre et tout ». Et dans ce cas-là, il empêche le cerveau préfrontal de maturer. Il fait l'effet contraire.
Et là, vous parlez de maltraitance émotionnelle dans ces cas-là?
Alors, la maltraitance émotionnelle, c'est tout ce qui humilie, critique, dévalorise, fait honte ou isole l'enfant. Mmh. Il y a énormément de très récentes études sur la maltraitance émotionnelle d'une jeune chercheuse hollandaise qui a montré que ça empêche la maturation d'une partie du cerveau très importante qu'on appelle le cortex orbitofrontal qui nous permet d'être empathique, de réguler nos émotions, d'avoir un sens éthique et moral et de savoir faire des choix. Donc vous imaginez comme c'est important.
Ouais.
Donc il faut se dire qu'il faut s'entraider pour essayer d'être calme et d'apaiser l'enfant.
Alors Isabelle Filioza, qu'est-ce qu'on peut conseiller à cette maman-là qui avait l'air complètement désemparée face à son enfant? Parce qu'on a beau vouloir comprendre son cerveau, il y a des moments où évidemment dans l'action, on est un petit peu moins résistant.
Oui Mathieu, mais comme vous l'avez bien remarqué, la personne la plus énervée là, c'était nettement la maman.
Oui.
Et ce que les neurosciences nous montrent aussi, c'est que, comme le disait Catherine, nos expériences d'enfants vont marquer durablement notre cerveau. Le souci, c'est que cette maman, comme nombre de parents, nous avons, lorsque nous étions enfants, été envoyés au coin. Nos propres émotions, nous n'avons pas su les réguler. Et donc, du coup, nous n'avons pas reçu l'éducation émotionnelle. Et ce qui se passe, c'est que chaque fois que nous avons été rejetés par nos parents, chaque fois que nous avons été envoyés au coin dans notre chambre et compagnie, alors que nous avions une émotion, eh bien, dans le cerveau, ce qui se passe, c'est réduction du nombre de récepteurs à ocytocine. Ce que vient de dire Catherine, on ne construit pas le cerveau orbitofrontal qui permet de réguler les impulsions. Et en plus, on a une amygdale hyperactive. Et donc, ce cocktail va venir jusque notre âge adulte, et à l'âge adulte, lorsque nos enfants sautent sur les fauteuils, font un petit peu trop de débordement, paf, ça nous fait disjoncter.
L'ocytocine, ça sert à quoi alors concrètement?
L'ocytocine, c'est l'hormone qui nous permet plein de choses. Elle nous permet de tempérer, elle nous permet de nous calmer, de calmer le stress, elle permet, c'est l'hormone de l'amour, c'est l'hormone du lien, c'est l'hormone qui nous permet de prendre soin, elle nous permet de sentir qu'est-ce qui se passe pour autrui.
Et mais donc, pour aider concrètement cette maman, il n'y a pas un spray d'ocytocine qui pourrait l'aider là en moment de la crise?
Il y en a en vente quelques-uns,
mais bon, c'est vrai, mais
ce serait une très bonne idée. Donc le spray d'ocytocine, c'est simplement prendre l'enfant dans les bras. Il suffit de 20 secondes où je serre mon enfant dans les bras, pas pour le contenir durement, mais simplement avec tendresse. Et du coup, je me nourris d'ocytocine. C'est biologique. Automatiquement, même si mes circuits ont été un peu détruits dans mon enfance, si j'arrive, mais c'est très dur de le faire, si j'arrive à tenir mon enfant dans les bras, petit à petit, on reconstruit les récepteurs à ocytocine.
Si j'y arrive, parce qu'il y a beaucoup de parents qui nous entendent, qui vont se dire « j'ai fait ça et ça n'a pas du tout fonctionné ».
Mais si ça fonctionne, si on arrive à le faire, ça fonctionne. Et c'est ça la magie, parce que comme c'est scientifique, ça marche.
Là, vous dites ça magie et scientifique juste... dans la même phrase.
Et mais oui.
Bah, dites donc.
La science est magique. C'est fascinant.
Non, c'est pas magique.
C'est fascinant.
C'est pas magique, c'est scientifique. Alors, Marjorie nous dit ceci, j'ai entendu qu'on peut voir dans le cerveau que l'autorité paralyse au sens propre les enfants, ce qui explique par exemple pourquoi ils se jettent par terre. Dans ce cas, comment expliquer que les enfants dans le passé encaissaient sans broncher des mesures disciplinaires autrement extrêmes ?
Alors,
parce que tous nos parents témoignent hein, pour dire qu'ils ont reçu une éducation bien plus dure que la nôtre quand même.
La façon de réagir à l'éducation dure, elle est très variable. Ça peut être au contraire l'anxiété, la sidération ou la dépression ou au contraire l'agressivité et la violence. Donc elle est totalement variable selon chaque personne.
Larry nous dit, toute éducation n'est-elle pas initialement bienveillante ? Ou alors il s'agit de dressage ?
Alors, tous les parents ou tous les adultes ont envie de bien faire avec leur enfant. Mais moi, je n'en veux absolument pas aux parents. Je veux surtout pas les culpabiliser parce que depuis des millénaires et sur la planète toute entière, les parents et les adultes ont toujours cru que la bonne éducation, c'était de reprendre l'enfant, de le punir, de l'humilier verbalement ou physiquement en pensant que ça allait le faire progresser. Alors que ça fait le contraire. C'est ça que nous disent les sciences. Il y a Rebecca Waller de l'université d'Oxford en 2013. Elle a pris 30 études qui étudient les éducations punitives et sévères sur les enfants et les adolescents. Et elle a montré que, contrairement à ce qu'attendent les adultes, eh bien, ça rend les enfants et les adolescents durs, insensibles, violents et ça amène à la délinquance. Donc vous voyez, les éducations punitives et sévères font l'effet inverse sur le développement des enfants.
Bon, on va écouter une petite fille qui parle de la fessée justement. Vous allez voir qu'elle a des choses très intéressantes à nous dire à ce sujet.
Quand on me dit de mettre la table et que je ne suis pas en pyjama, des fois ils me donnent des fessées.
Qui est-ce qui te les donne ?
Souvent papa. Ça me fait mal des fois. Des fois, j'ai envie de pleurer mais je me retiens.
Et pourquoi tu te retiens ?
Pour dire que je suis un peu grande.
Tu aimes bien les fessées, finalement ?
Oui, puisque ça nous apprend à élever aussi les fessées.
Mais qui est-ce qui t'a dit ça, que ça apprenait à élever les fessées ?
Moi, c'est dans ma vie, je l'ai appris. Puisque un jour, des fois, ils nous posent, des fois il faut être raisonnable, écouter les parents. Moi, quand j'aurai des enfants, je leur donnerai plus de câlins. Mais quand ils commenceront à grandir, si des fois ils se bagarrent, si c'est deux garçons, je leur donnerai une fessée à tous les deux.
Est très émouvante cette petite fille, Isabelle Filouza. Elle dit beaucoup de choses. C'est en 1990, un reportage de l'émission Minimum sur France Région 3 à Nancy. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Il y a plein de choses dans ces paroles, évidemment.
Oui, tout à fait. Mais hélas, je pense que ça pourrait être encore à l'heure actuelle qu'un enfant peut dire ça. L'enfant ne sait pas.
Vous vous rendez compte, elle dit, les fessées, ça élève.
Bien sûr. Mais c'est ce qu'elle a entendu, c'est ce qu'elle croit, parce que les parents le disent. Donc même si elle dit, c'est mon expérience, oui, c'est son expérience dans cette famille-là. Elle n'a pas d'autre expérience. Et donc, elle ne sait pas qu'elle s'élève et elle grandit, elle devient une femme responsable, deviendra une femme responsable malgré les fessées et non pas grâce aux fessées.
Catherine Guéguen.
Les fessées sont considérées en France, les gifles pareil, comme quelque chose d'anodin.
De moins en moins quand même. Hein.
Il n'y a toujours pas de loi.
Oui, mais il y a un autre regard quand même qui petit à petit est posé sur la chose. Mais évidemment, il n'y a pas de loi.
Il y a quand même 25 pays européens en 2015 qui ont une loi contre la fessée. Il y a des centaines d'études qui sont faites dans le monde entier sur les conséquences des fessées et c'est dramatique. C'est-à-dire, ça donne des troubles du comportement. Si on veut avoir un enfant violent, eh bien, ça engendre de la violence ou de l'agressivité ou de la dépression ou de l'anxiété. Il y a aussi de l'addiction aux drogues et à l'alcool et des troubles de la personnalité. Donc, c'est pas rien du tout d'humilier un enfant. Nous ne supporterions pas du tout de recevoir des fessées et ni nos collègues. Donc, l'enfant est beaucoup, beaucoup plus fragile que les adultes. Donc, pourquoi nous permettons, en France, le pays des droits de l'homme, de battre les personnes qui sont les plus fragiles de notre société. Il faut retenir que les êtres les plus fragiles de notre société, ce sont les enfants. Et si on traite bien les enfants, bien toute notre société s'en portera mieux et deviendra moins violente.
On se retrouve dans un instant pour poursuivre et puis on consacrera cette dernière partie aux messages des auditeurs qui sont très nombreux. Je vous les transmets dans un instant. Vous nous rejoignez franceinter.fr. Get it on avec T-Rex sur France Inter.
La tête. La prise de conscience correspond à un changement très important dans le traitement de l'information dans le cerveau.
Au carré.
L'activité électrique s'embrase, un réseau particulier qui concerne les aires supérieures va s'allumer de façon synchrone et toutes ces aires vont être en dialogue.
Sur France Inter.
Et elles codent toutes pour le même objet mental.
Voilà la voix de Stanislas Dehaene, hein, évidemment neuroscientifique et qui s'intéresse beaucoup évidemment à l'éducation aussi, il nous l'a souvent dit derrière ce micro. Catherine Guéguen, vous êtes l'auteur de ce livre « Vivre heureux avec son enfant » dans la collection « Réponses » de chez Robert Laffont. Et puis Isabelle Filioza, pour citer par exemple chez Jean-Claude Lattès, « Il me cherche, comprendre ce qui se passe dans son cerveau entre 6 et 11 ans » ou encore « J'ai tout essayé, les pleurs, les crises de rage, traversé sans dommage la période de 1 à 5 ans ». Anne nous a rejoint sur le site avec cette question « Est-ce qu'on connaît les conséquences des chocs traumatiques dans la petite enfance sur la santé physique de l'enfant, Catherine Guéguen ? » Parce que là, dans cette conversation, on a fait vraiment le pont entre le psychisme et le biologique, la façon justement dont le psychisme agit aussi concrètement sur le physique. Et là, il y a aussi des résultats très clairs qui sont donnés régulièrement dans les études.
Beaucoup d'études sortent actuellement et ça donne beaucoup, beaucoup de conséquences sur les problèmes, les maladies inflammatoires, sur les problèmes de troubles de l'immunité. Maladie inflammatoire, après, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de conséquences ensuite de maladies chez l'enfant et chez l'adulte. Polyarthrite rhumatoïde, diabète, sclérose en plaques, presque toutes les maladies auto-immunes qui ont des troubles de l'immunité viennent de stress de la petite enfance. Donc oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de conséquences physiques.
En tout cas, un des facteurs, en tout cas dans les maladies, parce qu'on sait bien
c'est
que c'est
un des facteurs.
Multifactoriel.
Bien entendu, c'est-à-dire que c'est par l'intermédiaire du stress et du cortisol. C'est un des facteurs de maladie.
Isabelle Filioza, la théorie de l'attachement, on la retrouve aussi dans vos ouvrages, évidemment, parce qu'elle impacte la nature directe aussi du cerveau de l'enfant.
Exactement. C'est l'attachement est un processus qui se tisse chez tous les mammifères et qui a permis notre survie. Nous naissons incapables de nous mouvoir. Nous avons absolument besoin d'une personne qui s'occupe de nous. Et donc, il y a ce processus à l'intérieur de nous qui nous mène à nous attacher. Et l'attachement, ça n'est pas seulement l'amour. C'est un processus qui se tisse entre le parent et l'enfant. L'enfant sourit, maman sourit. C'est vraiment un aller-retour. Et cet aller-retour tisse les réseaux de neurones qui permet au cerveau de se construire.
Est-ce que la maman reste encore la grande figure de la théorie de l'attachement ? Parce qu'on a souvent l'impression, on l'évoque en tout cas souvent, presque en oubliant le père d'ailleurs.
Oui, alors évidemment, aujourd'hui, les pères prennent de plus en plus d'espace. Clairement, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'on a tendance à avoir une figure d'attachement principale Mais ça ne veut pas dire qu'on aime moins son papa. Le père va être la figure d'attachement secondaire. Ceci dit, en fait, la figure d'attachement, c'est la personne qui s'occupe prioritairement du bébé dans les 9 premiers mois de sa vie. Mmh. Si c'est le papa, ce sera le papa qui sera la figure d'attachement.
Christophe nous dit, j'ai souvent entendu parler de critiques sur les prêts à l'emploi éducatifs proposés par les neurosciences. Qu'est-ce que vous répondez, Catherine Guéguen, par exemple ?
Il n'y a pas de recette. Les neurosciences ne disent pas ce qu'il faut faire. Et ils disent juste que c'est l'empathie, une relation aimante, soutenante, encourageante, qui va aider le développement du cerveau. Donc après, comment avoir plus d'empathie ? Eh bien, avoir plus d'empathie, en fait, si on n'en a pas reçu, eh bien, ça peut s'apprendre. Et c'est très étonnant de dire que ça peut s'apprendre. Mais en fait, comment ça s'apprend? Eh bien, en étant entouré de personnes empathiques et bienveillantes. Et c'est par le biais de l'ocytocine. Parce qu'à chaque fois qu'on est avec des personnes bienveillantes, on reçoit de l'ocytocine et c'est l'ocytocine qui nous permet d'être empathique.
Ouais, et vous parlez aussi de l'empathie envers soi, ce qui est très important aussi pour rentrer en relation avec l'autre.
Ouais.
L'auto-empathie, c'est ça ?
Oui, pour être empathique avec les autres, il faut d'abord être empathique avec soi-même.
Pour calmer notre propre cerveau.
Absolument.
Puisque c'est notre cerveau aussi qui nous empêche parfois d'être le parent approprié, le parent qu'on voudrait être.
Le fait d'accueillir nos propres émotions, de dire « oui, là je suis en colère » ou « je suis triste », eh bien ça apaise notre cerveau émotionnel, ça va apaiser l'amygdale qui sécrète ces molécules qui peuvent être toxiques, dont le cortisol. Donc à chaque fois qu'on parle de nos émotions, eh bien ça nous apaise et ça transforme les circuits au niveau de notre cerveau, qui nous permettent d'aller mieux. Donc c'est extrêmement important d'être auto-empathique avec soi.
Samantha nous écrit en disant « J'ai lu le livre, les livres de vos invités, je m'entraîne à être bienveillante, mais lorsque je vous écoute, je culpabilise trop. » Alors c'est vrai qu'on peut ressentir aussi ce sentiment, d'abord parce qu'on a un pouvoir extraordinaire qui peut évidemment mal tourner sur le cerveau de nos enfants. Et ce sentiment de culpabilité aussi qui s'affirme.
De toute façon, tous les parents se culpabilisent. Nous sommes conscients de la phénoménale importance que nous avons par rapport à nos enfants. Et donc, nous avons tendance tous à nous culpabiliser. Et c'est vrai que la culpabilité est un mouvement. On prend conscience et du coup, on réalise. Voilà, avec tout ce que j'apprends, je réalise tout ce que j'ai fait à mes enfants et que j'aurais préféré ne pas faire.
Et c'est un peu effrayant aussi de voir qu'on agit de cette façon-là sur le cerveau de son petit.
Oui, et en même temps, c'est drôlement fascinant parce que là, il y a des clés. Moi, je suis assez pour les recettes. Je trouve c'est chouette. On a plein de livres de recettes pour faire la cuisine et on n'est pas obligé de suivre la recette au pied de la lettre, mais ça permet quand même de savoir 2-3 trucs. Tous les parents demandent sans arrêt, mais qu'est-ce que je dois faire dans cette circonstance? Qu'est-ce que je dois faire? Alors moi, je donne jamais de conseils. Il n'y a jamais de qu'est-ce qu'on doit faire systématiquement dans telle ou telle circonstance. C'est important que chaque parent choisisse. Mais quand même, il y a des recettes, il y a des clés. Et les neurosciences nous disent des choses. C'est quand même chouette pour un parent de savoir que s'il dit cartable, c'est-à-dire un seul mot à son enfant, il a beaucoup plus de chances que son enfant récupère son cartable que s'il lui dit ramasse ton cartable s'il te plaît. Je veux dire, ça ne s'invente pas. Donc, le fait de pouvoir connaître comme ça des petites choses, des habiletés parentales sur lesquelles certains ont travaillé, eh bien oui, ça nous aide au quotidien. Et c'est bien joli, les grandes idées, les « il faut »,« on doit ». Mais sur le terrain, quand on est face à ses enfants, on a besoin d'outils concrets.
Un message de Véronique, ça m'aide de vous entendre, dit-elle. Nourrisson séparé tôt de ma mère, j'en suis toujours pris beaucoup de temps à câliner mes enfants en me disant intuitivement moi-même que je me réparais. Je viens d'en recevoir la confirmation.
Absolument.
Catherine Guéguen.
Le maternage, bon, pour moi, ce n'est pas du tout réservé aux mères. Les hommes sont tout à fait capables de materner aussi. C'est à tout âge. En fait, materner, c'est rassurer, sécuriser, consoler, prendre soin. Eh bien, le maternage permet de faire maturer les lobes frontaux, les circuits cérébraux, font sécréter une molécule qu'on appelle le BDNF, qui est une molécule qui permet le développement des neurones et des synapses. Ça agit aussi sur les gènes, ça fait sécréter l'ocytocine. Donc à chaque fois qu'on câline quelqu'un, c'est extrêmement positif.
Oui, c'est amusant parce que vous nous donnez vraiment la version scientifique très crue avec les termes qu'on emploie, mais auxquels on ne pense pas évidemment quand on pratique ces actes.
Câliner, rassurer, sécuriser, il ne faut pas s'en priver. Ça fait du bien à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde. Mais aux adultes aussi. Et pour les parents, justement, qui sont stressés et tout, il faut qu'ils sachent que quand ils câlinent leur enfant ou leur conjoint, ça les aide à être plus empathiques par la suite.
Bérangère nous écrit elle aussi sur franceinter.fr « Suivre le chemin de la parentalité positive a changé ma vie et celle de mon fils, mais ce choix d'éducation est trop souvent taxé de laxisme quand on dit qu'on n'a pas recours à la punition et au rapport de force avec son enfant. »
Oui, parce que c'est vraiment l'idée générale, c'est ancré dans l'esprit de la plupart des gens, comme quoi il faut des punitions et que c'est la seule façon de faire. Mais non, la science nous le montre vraiment très clairement, les punitions ne permettent que d'avoir une espèce d'idée de contrôle pour le parent, mais dans la réalité, ça n'améliore pas, ça n'est pas efficace et c'est nocif pour le cerveau de l'enfant.
Alors justement, lorsque Jérôme nous écrit, nous dit ceci, votre invité a dit tout à l'heure qu'il suffisait 30 minutes de jeu pour remplir le réservoir de l'enfant. Est-ce que l'enfant n'est pas gourmand par nature, c'est-à-dire qu'il ne va pas demander de plus en plus ?
Eh bien non, parce que justement, lorsqu'il est suffisamment rassasié d'affection, ce dont il a besoin, c'est d'explorer. Et donc, dès que j'ai suffisamment d'essence, de carburant dans mon réservoir, qu'est-ce que je fais avec du carburant dans mon réservoir ? Eh bien, je vais voler, je vais aller regarder un petit peu autour, je vais explorer. Il y a deux besoins fondamentaux chez l'humain, le besoin d'attachement et le besoin d'exister, de se dresser, d'être soi, d'explorer le monde, d'aller vers l'avant, d'aller vers l'extérieur.
Sophie nous dit, j'ai eu plusieurs fessées, même plusieurs gifles étant petite et je me porte très bien. Je suis aujourd'hui une adulte pleinement épanouie. En tout cas, je garde le souvenir d'une enfance heureuse. Je ne suis absolument pas traumatisée. Mais beaucoup de gens pourraient écrire ce message d'ailleurs, hein,
oui,
Catherine Guéguen.
Oui, tant mieux pour elle si elle ne se sent pas traumatisée. Mais moi, ce que je voudrais dire, face aux difficultés des adultes par rapport aux enfants, il y a une étude en 2007 d'un prix Nobel de l'économie qui s'appelle James Heckman, qui a dit que quand on investissait $1 dans la petite enfance, aussi bien pour les parents que pour les professionnels, eh bien, on économisait $100 dans la prévention du chômage, de l'exclusion sociale, de la délinquance et de toutes sortes de déviances, dont la violence.
Catherine Guéguen, vous êtes l'auteur de ce livre « Vivre heureux avec son enfant », c'est chez Robert Laffont. Nouveau regard donc sur l'éducation, la lumière des neurosciences affectives. Et puis Isabelle Filiosa, je renvoie entre autres chez Jean-Claude Attès à deux ouvrages. J'ai tout essayé et il me cherche. Et merci beaucoup d'être venu aujourd'hui dans
merci
la tête au carré.
Dieu.
Merci beaucoup. Fabrice Drouel, pas de fessé dans Affaires Sensibles.
Non, les enfants jouent à la guerre, les adultes la font, hélas. Et nous parlerons des coulisses du voyage surprise de François Mitterrand à Sarajevo le dimanche 28 juin 92. Ça avait fait couler beaucoup d'encre dans une ville où coulait beaucoup de sang à l'époque. Notre invité, Georges-Marie Chenu, ancien ambassadeur de France à Zagreb, présent à Sarajevo ce jour-là.
Eh bien, c'est dans moins de 5 minutes, juste après les infos. À tout à l'heure.